Carnet de campagne, bonjour. Nous entrons cette semaine dans le département des Pyrénées-Atlantiques. À noter que les entretiens prévus dans les Hautes-Pyrénées la semaine dernière seront diffusés au cours des prochaines semaines. Et un premier dès aujourd'hui, d'ailleurs, on reste entre voisins avec la société coopérative L'Odyssée d'Engrains qui réunit 12 paysans autour de la réintroduction de semences anciennes de blé dur destinées à la fabrication de pâtes. Présentation de cette filière en voie de développement par Julie Payou, membre bénévole de la coopérative. Mais tout d'abord, une première page dans le département des Pyrénées-Atlantiques avec un exemple de reprise d'activité d'entreprise tombée en désuétude. Il y en aura plusieurs cette semaine, sous le coup de la concurrence ou par défaut de transmission. Elles sont quelques-unes à revivre, à l'image des chaussures de montagne, le Soulor, dont l'atelier renaît grâce à Hélène Arnaud et Stéphane Bajnoff, que nous appelons tout de suite.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Stéphane Bajnoff, bonjour.
Bonjour.
Stéphane, avec Hélène Arnaud, vous avez repris un atelier qui est un atelier historique de chaussures, l'atelier Le Soulor à Pontac, aux confins du Béarn et de la Bigorre. Vous étiez jusqu'à présent dans un autre secteur, enfin, dans la grande distribution. Qu'est-ce qui vous a pris de reprendre cette très très vieille entreprise?
C'est effectivement une histoire qui a commencé il y a 7 ans en créant une petite marque avec Hélène qui a un savoir-faire fabuleux. Eh bien, on s'est décidé 7 ans après à reprendre ce vieil atelier qui allait s'arrêter tout simplement parce que le propriétaire allait prendre sa retraite et personne ne reprenait.
Né voilà. En 1925, hein, l'entreprise.
C'est ça, en 1925, l'atelier du Soulor a été créé donc par la famille Paradis-Pognès qui faisait du brodequin de montagne à la base. C'est diversifié ensuite en chaussures de ville. Aujourd'hui, nous, on apporte un savoir-faire supplémentaire avec du nu-pied sur mesure aussi. Et bien évidemment, on continue à faire ce que faisaient les anciens.
Ouais. Je suis allé voir votre site. Alors évidemment, c'est des Rolls, ces chaussures. Il y a la chaussure de montagne aussi. Il y a aussi le modèle Clark.
Oui, absolument. Le fameux Desert Boots. On continue à le fabriquer avec possibilité de choisir parmi 3 semelles et parmi une 30aine de coloris de cuir différents. Et bien évidemment, toujours sur mesure.
Alors, il y a eu une diffusion dans le journal de 13h de TF1, mois de février, d'un petit reportage qui vous a valu une explosion de mails et un carnet de commandes qui est monté très très vite. Du coup, vous avez embauché, c'est quand même incroyable, un passage télé. Enfin, vous me direz, paraît-il que dans les carnets, ça arrive aussi. Et vous avez ouvert une boutique en centre-ville de Pau. Parlons quand même de méthode entre les moyens utilisés en 1925 à la création de ce type de chaussures et aujourd'hui. Les technologies ont changé.
Les technologies ont changé, effectivement. On va dire qu'on utilise des process un peu différents, mais pas tant que cela, puisqu'on fait une grosse majeure partie du boulot à la main. Et ce montage main nous permet de faire des chaussures un petit peu unique. Une personne qui achète un produit chez nous n'achète pas qu'un objet de consommation, elle achète aussi une part du patrimoine béarnais que sont ces belles chaussures de montagne, entre autres, chaussures de ville évidemment.
Et vous utilisez quel cuir?
Alors on utilise principalement des cuirs du Pays Basque, tannerie Rémi Caria ou tannerie Garat. Ce sont des cuirs de veau, de taurillon, de la doublure en cuir de porc aussi, on utilise beaucoup. Mais ensuite on se fournit en cuir espagnol aussi, pour le côté un petit peu plus fun.
Ouais. Voilà. Et vous faites partie des derniers ateliers en France à utiliser la technique du cousu norvégien.
Oui, le cousu norvégien aujourd'hui, je pense pas me tromper en disant que nous sommes peut-être 5 sur le marché, en tout cas en confection 100% française. Donc ce savoir-faire est un petit peu unique. Et ça a été pour moi l'élément déclencheur. Lorsque j'ai découvert ce monsieur fait cousu norvégien, pas de pub, pas de marque, pas de site internet, et il est encore là. Donc c'est que son produit est bon et qu'il plaît beaucoup.
Il y a un regain d'intérêt aujourd'hui pour le Made in France. Vous envoyez les effets chez vous?
Oui. Nous avons monté une campagne de financement participatif en fin d'année dernière pour prendre la température, lever quelques fonds pour acheter une machine. Ça nous a permis de voir qu'effectivement, les personnes sont sensibles au Made in France, au Made in Béarn, pour le coup ici en local. Je trouve que ça a du sens, puisque les personnes qui viennent à l'atelier verront que leurs chaussures sont coupées par un tel, sont piquées par une telle, etc.
Voilà. Est-ce que ça a un sens, Stéphane, aujourd'hui, d'ouvrir une petite boutique au centre de Pau, alors qu'on a Internet?
Cette petite boutique avait pour objectif de faire une étude de marché grandeur nature. Aujourd'hui, je sais quels produits vont être à développer et quels produits vont être peut-être à mettre un petit peu à l'écart. Toujours est-il que la population paloise ne connaissait pas nécessairement l'atelier qui est à 40 minutes de Pau. Et cette boutique nous a permis de se rapprocher aussi d'une clientèle un petit peu plus urbaine que celle qu'on avait jusqu'à présent.
Et puis je rappelle donc, suite à une première diffusion télé d'un reportage sur votre atelier, oui. Vous êtes obligé d'employer deux personnes supplémentaires, ça risque de se développer. Pourtant, c'est le même constat, les banques sont toujours frileuses à aider des entreprises comme la vôtre.
Oui, effectivement, lorsque on reprend un atelier qui n'est pas nécessairement rentable, ça peut faire un petit peu froid dans le dos. Donc là, on va dire qu'on vient de lâcher le bord de la piscine, on commence à nager. Faut pas couler entre-temps, faut aller en face. Les voyants sont en train de passer tout doucement au vert. Donc nous avons déjà embauché deux personnes. Nous envisagerions d'en embaucher deux autres très rapidement d'ici la fin de l'année pour faire face à la demande. Et puis surtout, commencer à développer du e-commerce via le web, on le sait tous, hein, on peut toucher beaucoup plus de monde.
L'histoire fabuleuse avec le renouveau du Soulor, lesoulor.com, il y a la page Facebook Chaussures Le Soulor, vous allez voir la tête de ces chaussures qui sont inusables. À mon avis, on les a au pied à vie. Merci Stéphane.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Comme nous conservons aujourd'hui un pied dans les Hautes-Pyrénées, l'ex-région Midi-Pyrénées, un mot sur l'association dirigée par Frédéric qui s'appelle 3PA. Les 3P pour penser, parler, partager, le A pour agir. Dévolue à la sensibilisation à l'environnement, cette association installée à Pouchard-Ramet, au sud de Toulouse, intervient sur l'ensemble de l'Occitanie. Elle va ouvrir le 27 octobre prochain une première école européenne de la transition écologique afin de former les jeunes déscolarisés ou en grande difficulté aux métiers de la transition écologique. L'événement est vraiment de taille car 150 000 jeunes sortent chaque année en France du système scolaire sans aucun diplôme, dont 4 000 dans l'ex région Midi-Pyrénées. Puis les projections sur les 10 ans à venir avancent la création de 200 000 emplois au nom de cette transition écologique. L'événement est donc d'importance capitale car cette école est une première en Europe. Elle devrait se propager dans d'autres régions et dans d'autres pays de l'Union. Les métiers divers couvrent, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les emplois dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, la recherche, l'administration et les services, et tous ceux qui participent évidemment à préserver les écosystèmes, la biodiversité. L'objectif de l'école est de proposer aux 16-25 ans la découverte des métiers de cette filière verte et de les conduire vers une formation diplômante grâce à un parcours de pré-qualification. Les prérequis pour les jeunes bénéficiaires, ne pas être diplômé, avoir quitté la formation initiale et être motivé. Cette école est géniale. École-transition.eu. Julie Payou, bonjour.
Bonjour.
Julie, vous êtes à Lannemezan?
Oui, absolument, dans le Piémont pyrénéen.
Ouais. Vous êtes bénévole à la société coopérative d'intérêt collectif, l'Odyssée d'Engrains. Depuis plusieurs années, on voit qu'il y a un petit problème avec le blé. D'abord, il y a l'uniformisation des semences, un problème de surdosage de gluten, les OGM avec les débats que cela a générés. Et des militants pyrénéens se sont lancés dans un réseau, une reproduction de semences anciennes, de blé paysan. Et je suppose qu'ils sont membres du réseau Semences Paysannes.
Absolument, voilà. Les paysans qui font partie de l'Odyssée d'Engrains sont à l'initiative d'un projet de multiplication qui a été piloté par le réseau Semences Paysannes. Donc effectivement, l'idée de départ, en fait, c'était de relancer des vieilles variétés de blé et surtout de les tester sur notre terroir à nous et de voir via des micro-parcelles de semences laquelle allait se plaire naturellement sur notre terre et dans notre climat.
Les résultats, ce sont deux variétés qui sont bien plus, le blé poulard et le petit épeautre.
Absolument. Alors le petit épeautre qui, pour le coup, lui commence à avoir une certaine notoriété,
oui.
et le poulard d'Auvergne qui est une variété qui est moins connue et qui s'est effectivement bien plus chez nous, qui est une variété qui avait été plutôt mise de côté parce qu'elle est très haute en paille et que du coup elle se couche facilement, elle avait une fragilité par rapport à ça, mais qui par contre au niveau gustatif et nutritif a des propriétés qui sont fantastiques.
Voilà. Ouais. Vous avez lancé les micro-parcelles avec quelques producteurs qui venaient d'où ? De quel milieu ? Plutôt conventionnel ou bio ?
Pour le coup, là, le projet il a été piloté exclusivement par des producteurs qui sont en certification biologique.
Oui.
Et pour le coup, les 12 producteurs qui maintenant livrent du blé à la SCIC, l'Odyssée d'Engrains, sont aussi exclusivement en agriculture biologique.
Oui, mais ils ne cultivent pas uniquement dans les Hautes-Pyrénées ?
Alors non, en fait, nous, notre territoire, c'est la limite entre les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne. Mmh. Voilà, c'est vraiment le terroir qui est limitrophe aux trois départements. Mmh. Et après, les blés sont acheminés vers les moulins qui font partie de la SCIC. Et après, la fabrication se fait à Lannemezan. Bien qu'on ait déménagé la semaine dernière, on est à Castelnau-Magnouac, maintenant, pour être précis.
Alors, à propos des moulins, sont des meules de pierre.
Oui, absolument. On travaille sur meules de pierre et du coup, on fait des pâtes à partir de farine. Normalement, c'est de la semoule de blé dur. Et nous, on fait des pâtes uniquement à base de farine de blé poulard ou de petite épeautre et d'eau. Sans autre adjuvant, sans œufs, sans beurre, sans quoi que ce soit d'autre.
Ouais. Et la distribution se fait sur les marchés bio?
Alors, elle se fait sur les marchés bio, via le réseau Biocoop et après, dans des épiceries fines et des commerçants de proximité plutôt.
Alors comment on reconnaît les productions de l'Odyssée d'Engrain? Il y a une marque particulière?
On a oui des étiquettes avec un logo, le logo de l'Odyssée d'Engrain. Et nos produits oui sont vraiment estampillés de la marque de la SCIC.
Ça a pris une telle forme avec les 12 producteurs qu'aujourd'hui vous avez créé un réseau économique en tant que tel assez fort.
Oui, absolument. Le projet, il est vraiment autour du fait de donner une réalité économique aux semences paysannes. Et ça, pour nous, c'est central, puisque nous, ce qu'on fait, ce n'est pas une association ou un projet ou une fondation. C'est une entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de prouver qu'on peut créer un outil économique qui soit éco-responsable, éco-solidaire, dans lequel les producteurs aient tout à fait la maîtrise de leur filière et qui est une vraie réalité dans le monde économique aujourd'hui.
Et complètement autonome, parce que là, vous arrivez à l'équilibre financier.
Absolument. Cette année, on le touche du doigt. Et c'est pour nous une vraie réussite parce que c'est des projets sur lesquels, au départ, on met beaucoup d'énergie, on perd de l'argent. C'est vrai que là, il nous a fallu 3 ans pour arriver à un équilibre. Là, on déménage justement parce que la communauté de communes de Castelnau-Magnouac nous a aidé à créer un outil de fabrication qui soit adapté, un vrai labo agroalimentaire. On commence à avoir quelque chose qui se formalise et qui est équilibré.
Et donc, vous confirmez, dernière chose, Julie, qu'aujourd'hui, là, on voit de plus en plus de personnes qui sont sensibles au gluten et qui ne peuvent plus l'assimiler. Il y en a toujours eu dans les farines, sauf qu'aujourd'hui, il est surdosé et on n'utilise plus, comme vous le faites, des gluten naturels.
Et non, absolument. Donc nous, l'idée, c'est vraiment que la semence, elle est dans sa forme primitive. Elle n'a pas été adjuvée, pas hybridée. On ne peut pas dire que nos produits sont sans gluten parce qu'il y a du gluten naturel à l'intérieur. Oui. Mais en l'occurrence, les gens qui sont intolérants n'ont aucun problème à manger des pâtes de l'Odyssée. Mmh. Parce que les gluten naturels qui sont contenus à l'intérieur sont assimilables en quelques secondes par n'importe qui.
Formidable. Merci d'apporter la précision parce qu'elle est bien utile. Pâtes bio Haute-Pyrénées pour la page Facebook. Vous allez avoir le lien avec la SCIC Odyssée d'Engrain aussi sur le site GAP 65, c'est-à-dire du groupement d'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées.
Absolument.
Tout savoir. Merci Julie.
Eh bien, merci à vous et belle journée.
Nous continuons à remplir notre corbeille des bonnes nouvelles pour le mois de novembre en provenance de la Nièvre, de la Côte d'Or, de la Haute-Saône et de l'Aveyron. Continuez à nous écrire, merci, dans les Pyrénées-Atlantiques. Sainte-Colombe, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.